au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Nasciturie te salutant, la crise de la bioéthique, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jean-Marie Leméné. Nasciturie te salutant, ça signifie « ceux qui vont naître te saluent », une allusion féroce au gladiateur qui saluait l'empereur avant le combat. Ave César, moriturie te salutant, ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Le ton est donné dans le titre, il est polémique, à l'orée de la révision de la loi de bioéthique en 2010. L'auteur est avec nous pour nous donner son point de vue sur la réforme en cours. Jean-Marie Leméné, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Jérôme Lejeune, Fondation pour la recherche sur les déficiences intellectuelles d'origine génétique et notamment la trisomie 21. À ce sujet, j'invite nos auditeurs à écouter une précédente émission réalisée avec vous. Pourtant, sur la trisomie est une tragédie grecque, émission qui mettait déjà en avant vos inquiétudes quant à la généralisation du dépistage de cette maladie aux dépens de la recherche. Mais revenons à Nasciturie te salutant, la crise de la bioéthique. Vous commencez par la citation d'un conte. Alors je vous propose d'en écouter la lecture, assurée par Virginia Crespo. Vous y réagirez ensuite, si vous le voulez bien, Jean-Marie Leméné.
Il était une fois un roi qui souffrait d'une terrible maladie. Ses médecins décidèrent que pour le guérir, il lui faudrait faire une greffe à partir d'un autre être humain. Alors le roi envoya ses soldats battre la campagne à la recherche de cet être humain susceptible de le sauver. Finalement, ses soldats mirent la main sur une enfant pauvre qui travaillait avec ses parents. Et après avoir donné de l'argent à ses parents, ils ramenèrent l'enfant à la cour du roi. Là, à la cour du roi, le juge décréta qu'il était permis de faire couler le sang d'un sujet innocent dès lors qu'il s'agissait de rendre la santé au roi. Mais au moment où le bourreau s'apprêtait à exécuter la sentence capitale, l'enfant tourna son visage vers le ciel et éclata de rire. Le roi, stupéfait par cette attitude de l'enfant au moment où il allait mourir, lui demanda la raison de son allégresse. L'enfant répondit ceci. « Le devoir des parents est de protéger leurs enfants, celui du juge de rendre la justice et celui du roi de défendre ses sujets. Mais moi, mes parents m'ont voué à la mort. Le juge m'y a condamné et le roi y trouve son intérêt. Je ne cherche plus de refuge qu'en Dieu seul. » À ces paroles, le roi bouleversé fondit en larmes et s'écria « Ma mort est préférable au sang d'un innocent. » Il embrassa l'enfant, le couvrit de grands biens et lui rendit la liberté. Dans la même semaine, le roi recouvrit la santé. Saadi, le jardin de roses, conte soufi du XIIIe siècle.
Jean-Marie Leméné, quel lien faites-vous entre ce conte persan et la révision de la loi de bioéthique ?
Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Il y a cette inquiétude, cette véritable question que se pose le roi sur son avenir et sur sa santé. Ça, ce sont des choses que nous partageons. Il y a aussi la tentation de la nouveauté, de la transgression, et puis la facilité de s'en prendre à des êtres humains qui sont pauvres, qu'on peut acheter, puisque c'est ce que fait le roi. Et puis l'illusion, surtout, que la transgression va permettre un progrès. Et ça, je pense que c'est peut-être le trait qui est le plus commun avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est un petit peu l'antienne qu'on nous a répété pendant une dizaine d'années. Il semble qu'on en sorte un petit peu maintenant, mais de nous dire, au fond, si on ne transgresse pas, on ne progresse pas. Alors, je parle de la transgression sur le plan moral, sur le plan éthique. Bien sûr que sur le plan des connaissances, il faut avancer. Il y a des connaissances qui bouleversent celles qu'on connaissait précédemment ou qu'on croyait connaître. Mais la transgression sur le plan éthique, celle qui consiste à supprimer son prochain pour en tirer des précieuses cellules, les injecter, en faire une greffe et vous guérir, ça n'a pas fonctionné au XIIIe siècle et ça ne fonctionnera pas davantage au XXIe.
Nous allons donc en reparler au cours de cette émission. Dans l'introduction de votre livre, votre thèse est la suivante et après vous l'explicitez. Ce qui est inscrit dans la prévision de loi de bioéthique, je vous cite, commence à afficher un mépris de l'être humain dans sa faiblesse puisqu'on peut le détruire quand il est malade ou handicapé, pour mettre une main sur sa richesse quand il peut fournir des cellules souches aux vertus miraculeuses, fût-ce au prix de la vie.
Mais c'est un petit peu exactement ce qu'on retrouve dans ce conte, enfin dans les différentes dispositions de ce conte. Il y a à la fois d'un côté cette ambivalence, ce mépris d'un être petit, méprisable, qui ne vaut rien, qu'on peut acheter à ses parents. Et puis d'un autre côté, une fièvre d'avoir ce qu'il possède et ce en quoi il est riche. Parce que finalement, cet enfant qui ne valait rien, il est quand même capable, supposé capable, de sauver le roi. Donc ou bien il a de la valeur, ou bien il n'en a pas. Alors s'il a de la valeur, on ne l'achète pas. Et s'il n'a pas de valeur, vous comprenez, tout ça c'est très ambivalent dans l'esprit du roi, c'est aussi ambivalent dans notre esprit à nous, puisque eh bien, un être humain, par exemple, qui est porteur de la trisomie 21, on peut le détruire impunément, mais des embryons dépossédés de projets parentaux, on peut la mettre la main dessus pour récupérer des précieuses cellules. Voilà, donc il y a cette ambivalence dont il faut absolument sortir parce que c'est un conflit profond.
Dans le premier point, votre ouvrage est articulé en quatre points. Dans le premier point, vous faites référence à un terme assez fort. Vous parlez d'eugénisme. D'eugénisme lorsque les parents ont la possibilité de faire un diagnostic pour connaître les possibles risques de maladies génétiques de l'embryon. Et donc après avoir le choix jusqu'à 9 mois pour pouvoir faire un avortement médical. Vous parlez d'eugénisme, n'est-ce pas un peu trop fort parce que...
Ah non, je pense que le terme n'est même pas assez fort. Je vais même au-delà puisque je parle de génocide et que je ne suis d'ailleurs pas le seul à parler de génocide. L'eugénisme est un terme qui a été utilisé par le Premier ministre M. Fillon lorsqu'il a posé la question au Conseil d'État en disant « est-ce qu'il y a de l'eugénisme ?» Et le Conseil d'État, dans son rapport de 2008, a répondu « oui, il y a de l'eugénisme s'agissant de la trisomie 21 ». Je vous rappelle que Jean-François Mattei a dit « il s'agit d'un eugénisme de masse » et que le professeur Sicard lui-même a parlé du spectre de l'éradication. Donc, sur le fait qu'il y a un eugénisme, on est d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il s'agit de l'eugénisme de la part des parents et je ne jetterai absolument pas la pierre à aucun des parents. Je pense, en revanche, que ce n'est pas un eugénisme individuel qui, tout d'un coup, a des conséquences collectives, mais que c'est le contraire. C'est un eugénisme d'État qui a des conséquences individuelles chez les parents qui, peut-être jamais, n'auraient pensé qu'on pouvait supprimer un enfant, son enfant, simplement sous prétexte qu'il était malade. Et c'est cet eugénisme d'État qui constitue une offre, et ça, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat non plus, c'est une offre publique. Quand vous dites à l'opinion publique et aux 850 000 femmes enceintes annuellement, voilà, l'État va consacrer 100 millions d'euros chaque année pour faire un dépistage, parce que la chose la plus effrayante qui puisse vous arriver, c'est d'avoir un enfant trisomique 21, c'est une offre qui s'impose aux gens, et je se dis, bah oui, on peut le savoir, ah bah on peut peut-être éviter. Ou alors on va se préparer à donner naissance à cet enfant. Et en fait, c'est une illusion, car on ne se prépare jamais à donner naissance à un enfant handicapé. La meilleure preuve, c'est que la quasi-totalité des enfants trisomiques dépistés sont avortés. Donc je reproche à l'État, pas aux parents, jamais aux parents, jamais, mais à l'État de faire une offre qui est une offre immorale, une offre indigne. Quand on attend un enfant malade, bah c'est un malheur, c'est une souffrance, mais la société doit se mobiliser pour être au service de la famille, au service de ses parents, et essayer de trouver une solution honnête à la maladie dont souffre cette personne.
Alors, pour cela, j'invite nos auditeurs à écouter l'émission « La trisomie est une tragédie grecque » où vous revenez en détail sur cette notion de proposer un avortement plutôt que d'axer sur la recherche, notamment à travers la trisomie 21. Revenons sur une définition, l'eugénisme. Définition l'eugénisme adoptée par le Conseil d'État français dans son étude sur la révision des lois de la bioéthique de 2009. Cette définition est la suivante. L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affections graves. À travers cette définition, n'y a-t-il pas un mauvais eugénisme et un bon eugénisme ?
Non, je pense qu'il n'y a pas un mauvais eugénisme et un bon eugénisme. Il y a des victimes de l'eugénisme et ces victimes souffrent d'une exclusion et c'est cette exclusion qu'il faut analyser. Pourquoi est-ce qu'on est exclu de la communauté humaine, du droit à la vie, un certain nombre de personnes sous prétexte qu'elles souffrent d'une pathologie qui est dépistable et qui est détectable ? Parce qu'en réalité, si on s'acharne particulièrement sur la trisomie 21, c'est pour une raison technique. Et cette raison technique, c'est qu'on peut attraper la trisomie 21 à travers la mucinthèse, on peut attraper la trisomie 21 à travers le dépistage par les marqueurs sériques. Bon, chose qu'on ne peut pas faire pour d'autres pathologies. Alors, en fait, c'est pas compliqué. On fait peur aux femmes, parce qu'il y a 800 000 femmes annuellement enceintes, donc c'est un marché porteur, un marché captif. Derrière, il y a des fabricants de tests de marqueurs sériques, il y a des laboratoires qui sont capables de faire les amyosynthèses et les karyotypes. Et derrière, c'est une machinerie, puisqu'on sait le faire, puisque derrière, on peut générer la peur, et c'est le salaire de la peur. Donc, c'est tout à fait immoral de consacrer, c'est absolument immoral, c'est fondamentalement immoral de consacrer chaque année en France 100 millions d'euros pour dépister et éradiquer la quasi-totalité de la population des enfants trisomiques. Ça, je veux dire, et puis supprimer un enfant parce qu'il est malade. La trisomie 21 est infiniment compatible avec la vie. Enfin, il y a des pathologies qui sont bien plus insupportables que la trisomie 21. Pourquoi cet acharnement sur la trisomie 21? Moi, j'en rencontre tous les jours, je vois des parents tous les jours. C'est vraiment un fléau terrible, cet acharnement. Combien de parents nous disent, mais on est poursuivi par les médecins qui nous disent le test est obligatoire, pourquoi vous le gardez? Si vous le gardez, c'est terrible, ce sera chemin de croix. Mais ce n'est pas vrai. On connaît des enfants trisomiques qui réussissent à l'école et qui avancent un peu dans la vie, qui peuvent être insérés, qui peuvent travailler un peu. Il faut améliorer tout ça. Mais enfin, c'est insupportable de dire aux parents, au moment où ils sont directement concernés par le don de la vie, dans 9 mois, est-ce que vous allez vous retrouver avec un enfant trisomique sur les bras et ce sera un chemin de croix, ou est-ce que vous êtes capable de le tuer? C'est insupportable et indigne d'une démocratie.
En même temps, le diagnostic prénatal est quand même une avancée scientifique. C'est une information à laquelle les parents ont droit, vu que maintenant ce diagnostic prénatal existe. Alors, vous préconisez quoi? Alors, qu'il soit supprimé, ce diagnostic prénatal?
Non, pas du tout. Non, pour que ces parents je trouve que les possibilités de diagnostic qui se développent sont merveilleuses et je ne jette pas du tout la pierre sur le diagnostic. C'est impossible de dire qu'on est contre le diagnostic. Le diagnostic, c'est une chose géniale. Mais le diagnostic doit être au service de la personne et ne pas se retourner contre la personne. Ou à ce moment-là, si on diagnostique le sida d'une personne, pourquoi on ne décide pas finalement de supprimer cette personne? Ou si on diagnostique un cancer d'une personne qui a plus de 80 ans, pourquoi on ne décide pas purement et simplement de la supprimer? Bon, parce qu'effectivement, sur des raisonnements totalement économiques, c'est ce à quoi on aboutit. Et je rappelle, et je renvoie à mon premier livre que vous avez eu l'amabilité de citer, qu'en réalité, ce dépistage de la trisomie 21, il a été fait sur un fondement purement économique, parce que ça revient moins cher, effectivement, de supposer que tous les parents vont avorter un enfant trisomique, plutôt que d'imaginer les avoir dans des établissements pendant 30, 35 ou 50 ou 60 ans. C'est pas honnête, c'est pas moral. Il faut un jour que quelqu'un le dise. Enfin, c'est insupportable de vivre cette espèce d'hypocrisie. Et cette espèce de trouille qu'on donne aux femmes enceintes systématiquement sur cette pathologie-là, alors qu'on voit tellement de choses qui sont beaucoup plus difficiles à vivre, vous savez. Je suis très triste de cette situation et très triste qu'il n'y ait aucun homme politique, ni aucun médecin, professeur de médecine, qui soit capable d'avoir l'honneur de rendre à la médecine ses quartiers de noblesse. Et sur ce terrain-là, le seul qui l'avait fait, c'était Jérôme Lejeune. Il l'a payé de sa vie. Mais je pense qu'il a rendu une grande partie des quartiers de noblesse que la médecine avait perdu dans cette triste bataille de la suppression des enfants parce qu'ils sont malades.
Venons-en au deuxième point de votre ouvrage. Concevoir l'être humain pour le sélectionner. Alors je me permets de nouveau de vous citer, hein, comme ça on pourra avancer dans votre argumentaire. L'assistance médicale à la procréation, l'AMP, et le diagnostic pré-implantatoire ont été l'occasion de répondre aux insuffisances de la première étape et ont pour résultat d'aller beaucoup plus loin dans l'eugénisme. Alors l'AMP est là au départ pour aider les couples à avoir des enfants. En quoi l'AMP va-t-il aller plus loin dans l'eugénisme?
Ce n'est pas l'AMP en tant que telle. C'est la technique qui est inséparable de l'AMP, qui est en fait le diagnostic préimplantatoire. Parce qu'il faut bien imaginer qu'à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait fabriquer des embryons in vitro, bon, essayer de donner des enfants à des familles ou des couples qui ne peuvent pas en avoir, inséparablement de cette technique, car il s'agit d'une technique, ce n'est pas tellement une avancée de la médecine. La médecine n'a pas tellement progressé. On a transféré une technique qui existait en art vétérinaire depuis 50 ans à l'espèce humaine. Mais inséparablement, on a créé la possibilité de faire un diagnostic des embryons pour ne réimplanter que les embryons les plus aptes à implantation. Sinon, ce n'est pas la peine. Et puis, c'est trop pénible, c'est trop cher, ça ne marche pas, les statistiques ne sont pas bonnes. Bon, donc, cette technique du tri des embryons avant la réimplantation, elle est par définition eugéniste. Alors que le dépistage et le diagnostic ne sont pas par essence eugénistes, en revanche, le DPI, lui, je pense, est intrinsèquement pervers parce que c'est la fabrication d'embryons dans la finalité de ne trier que les bons qu'on va réimplanter. Et donc là, on est dans le tri des bons et des mauvais et dans les listes de proscription, et ça, je pense que c'est pas justifié. Et on voit que cette liste de proscription, eh bien, s'élargit tous les jours. Alors la France a limité dans la première loi de bioéthique aux maladies graves et incurables des parents, de la fratrie, type myopathie, mucoviscidose, etc.
C'est la question que j'allais vous poser. C'est effectivement des parents dont on sait qu'ils sont porteurs génétiquement de maladies, on peut leur donner aussi la possibilité d'avoir un enfant qui ne sera pas porteur de leur propre maladie.
Voilà,
c'est quand même une avancée aussi.
C'est ce que la loi. C'est une avancée, ça dépend comment on le prend. Lorsqu'on a fait croire, effectivement, à l'opinion publique, grâce à l'argent, au financement public et puis à l'argent du Téléthon, on a donné naissance enfin à un premier enfant né indemne d'une grave maladie génétique. En fait, par des raccourcis saisissants, l'opinion publique a considéré que grâce au Téléthon, enfin, des familles durement touchées par un handicap pouvaient donner naissance à un enfant sain. Mais cet enfant sain, il n'a jamais été guéri parce qu'il n'a jamais été traité, parce qu'il n'a jamais été malade. Alors, quand on réimplante un embryon en bonne santé, monsieur de la Palisse, en dit autant, on a évidemment un enfant en bonne santé. Mais la recherche n'a pas progressé et la médecine n'a pas progressé. Et l'accueil de l'handicapé n'a pas progressé non plus. C'est du tri, on réimplante des enfants en bonne santé, évidemment, on a des enfants en bonne santé. Donc ça, il faut voir un peu de quel côté on se place quand on juge que c'est une avancée positive. Parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que le spectre s'élargit systématiquement des affections pour lesquelles on peut préconiser un diagnostic préimplantatoire. On était juste aux maladies des parents et de la famille. Maintenant, on s'aperçoit qu'on commence déjà à faire du diagnostic préimplantatoire pour des gènes de prédisposition. Alors, des gènes de prédisposition à des maladies, nous en sommes tous porteurs, vous comme moi. On a des quantités de gènes à des prédispositions de maladies qui ne se déclareront pas forcément. Il y a 6000 maladies génétiques, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc, ça veut dire quoi? Alors, aujourd'hui, on dit que c'est uniquement les cancers des enfants. Enfin, bon, et pourquoi se limiter au cancer des enfants? Je veux dire, il n'y a pas aucune raison. Et puis, un jour, ce sera le sexe, un jour, ce sera la couleur des yeux. Il y a déjà des pays qui le font. Il y a déjà des laboratoires privés qui le font. Et donc, où on met le curseur, c'est-à-dire à partir du moment où on ne respecte pas la vie humaine au début, il n'y a aucune raison autre que technique de s'arrêter à un moment.
Avec des garde-fous quand même qui existent en France. Le Conseil consultatif national d'éthique est là quand même pour...
Il donne des avis. Et puis, ces avis ne sont pas toujours bien inspirés parce que, par exemple, il vient de sortir un avis numéro 107 au mois de décembre, le CCNE, justement, qui préconise un élargissement absolument illégitime, qui est non seulement de rechercher à travers le diagnostic préimplantatoire la maladie recherchée, par exemple la myopathie ou la mucoviscidose, mais également systématiquement à travers chaque des pays de rechercher la trisomie 21. Alors ça, j'avoue que les bras m'en sont tombés, je n'aurais pas pensé, je ne vois pas du tout l'intérêt. Les parents ne sont absolument pas demandeurs. Les parents, ils veulent qu'on recherche si leur enfant est myopathe pour ne pas avoir un deuxième ou un troisième enfant myopathe. Je peux comprendre. Même si je n'adhère pas forcément à cette technique, je comprends la démarche. Mais dire aux parents, attendez, en plus, on va vous libérer de l'idée de... Voilà, on va vous empêcher de donner naissance aussi à un enfant qui serait trisomique 21. Les parents ne l'ont pas demandé. Il y a une pression sociale simplement qui s'exerce dans ce sens. Et le CCNE a trouvé bon d'aller dans cette direction. J'ajoute que c'est un préjugement. C'est présumer que les parents, de toute manière, ne voudront pas un enfant trisomique. Enfin, alors là, je veux dire, c'est totalement immoral. Et pourquoi la trisomie 21? Pourquoi la trisomie 21, encore une fois? En plus, c'est une maladie génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. C'est-à-dire que ces parents qui ont malheureusement la myopathie ou la mucoviscidose dans leur famille n'encourent pas plus de risques que vous ou moi de donner naissance à un enfant trisomique. Alors pourquoi va-t-on les obliger à rechercher également la trisomie dans le patrimoine génétique des enfants qui sont en train de concevoir? Je ne comprends pas. Et si ce n'est un phénomène d'eugénisme qui est comme une boule de neige et qu'on ne peut pas arrêter.
Un eugénisme que certains qualifient de liberté et de solidarité, mais ça n'engage... Voilà, ouais, chacun son...
En détruisant ceux qui sont malades, on est solidaire avec les bien portants. C'est une solidarité des forts et des bien portants. C'est ce qu'on appelle la race des seigneurs. Ceux qui ont de l'argent, de la beauté et de la santé sont solidaires entre eux pour faire en sorte que les autres ne viennent pas déranger leur confort. C'est très bourgeois comme conception et je n'adhère pas à ça.
Troisième point de votre ouvrage, convoiter l'être humain pour ce qu'il a. Pour argumenter cette troisième partie, vous expliquez craindre de la recherche à travers les embryons surnuméraires. Hein, quand il y a un diagnostic préimplantatoire, une assistance médicale à la procréation, c'est vrai qu'il y a plusieurs embryons qui sont constitués. On ne les implante pas forcément tous dans le ventre de la mère. Et la possibilité, pourquoi pas, d'utiliser ces embryons qui n'ont pas été implantés dans le ventre de la mère, les utiliser pour une recherche. Alors aujourd'hui, il me semble que le débat s'est un peu déplacé puisqu'on ne travaille plus sur les cellules souches embryonnaires, mais plutôt sur les cellules souches issues du cordon ombilical de la mère.
Vous avez parfaitement raison. De plus en plus, on s'oriente vers d'autres types de cellules souches d'origine non embryonnaire. Mais il faut rappeler historiquement que l'idée, l'inspiration d'utiliser les cellules souches embryonnaires était juste sur le plan conceptuel. C'est vrai que ces premières cellules sont totipotentes. C'est génial. On va les faire travailler, les faire se différencier. Donc l'intuition était parfaitement juste. Bon. Mais en revanche, on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les embryons et de cannibaliser en quelque sorte les embryons humains pour récupérer ces cellules souches embryonnaires, puisque ces cellules souches, elles existent également chez l'adulte. On a des cellules souches dans tous nos tissus, on peut les récupérer, ça se fait déjà. Il existe également des cellules souches dans le sang du cordon ombilical et on sait à quel point la France est en retard pour la collecte de ce sang de cordon. On peut en trouver très facilement, il suffit de s'organiser. Et je pense que la France est en train de bouger là-dessus. Et puis surtout, il y a eu cette découverte formidable de Yamanaka en 2006-2007, qui a complètement bouleversé le paysage qu'on connaissait en 2004. Et donc c'est pour ça que la révision de la loi en 2009-2010 est très intéressante, parce que Yamanaka n'avait pas encore fait sa découverte. Sa découverte, c'est quoi? C'est la reprogrammation d'une cellule somatique, une cellule normale déjà différenciée, et lui faire retrouver sa jeunesse.
La faire rajeunir.
La faire rajeunir, rajeunir. C'est génial, c'est un rêve quasiment démiurgique, c'est formidable. Alors, ce n'est pas encore d'un usage absolument courant, mais il y a déjà des centaines de laboratoires qui ont changé leur fusil d'épaule, qui arrêtent de faire de l'embryon, des cellules embryonnaires, et qui se tournent vers l'utilisation des cellules iPS, faites par Yamanaka ou proposées par Yamanaka, pour une bonne raison, tout simplement, c'est que les cellules souches embryonnaires, aujourd'hui, beaucoup en parlent, enfin, un certain nombre en parlent, en fait, elles ne sont pas utiles sur le plan thérapeutique, il n'y a pas vraiment de projet thérapeutique applicable à l'homme. En revanche, elles sont très demandées pour des raisons économiques, encore une fois, comme quoi c'est toujours l'argent qui gouverne le monde, pour mettre au service des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques des cellules sur lesquelles on puisse tester des molécules, des médicaments. C'est vrai que les labos ont besoin de ça. Alors, on ne peut plus le faire chez les animaux, parce que la protection animale est tellement forte qu'on fait sauter des bombes dans la maison des chercheurs qui utilisent des cellules animales. Ça se fait dans les pays anglo-saxons, pas encore en France. Enfin, c'est quand même assez violent. Et donc, on se dit, on n'a qu'à prendre les cellules embryonnaires, personne ne viendra se plaindre. Et en réalité, c'est quand même un usage quand même un peu triste de l'embryon que de mettre au service des tests de médicaments ou de cosmétiques, alors qu'on peut très bien le faire avec les cellules iPS. Et c'est formidable, c'est une voie formidable. L'inventeur lui-même du clonage, lui-même a dit j'arrête le clonage, c'est terminé. Et les cellules iPS proposent une piste formidable, pleine d'espoir. Et beaucoup de laboratoires qui font déjà de l'embryon, qui font encore de l'embryon, commencent à basculer sur les cellules iPS.
Donc on saisit bien à travers votre discours que la science avance très très vite.
Très vite.
Et qu'il y a 4 ans, on se posait la question, et les débats, les polémiques sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires n'étaient déjà plus au goût du jour. Du coup, n'y a-t-il pas un faux débat ? Finalement, il n'y a plus de problème.
Je pense que dans quelques années, il n'y aura plus de problème. C'est un faux débat. Et je pense que ceux qui entretiennent ce type de débat en disant il faut continuer à faire de l'embryon freinent l'avancée de la science. Et si la France n'a pas pris suffisamment d'avance en matière de thérapie cellulaire, c'est à cause de ceux qui préconisent de faire de l'embryon. Parce que si la France était déjà dotée de laboratoires qui faisaient des cellules iPS, par exemple, ou avait déjà prévu du stockage de sang de cordon ombilical, comme c'est déjà le cas dans les pays du sud asiatique, on n'en serait pas là, on aurait fait des progrès. Peut-être qu'on aurait eu en France un Yamanaka, et je regrette, mais ceux qui se font les propagandistes de la recherche sur l'embryon n'ont fait aucune découverte qui arrive à la cheville de la découverte d'un type comme Yamanaka. Ce qui prouve que quand on a des comportements qui ne sont pas éthiques, non seulement ce n'est pas éthique, ça prouve qu'il y a une certaine unité dans l'espèce humaine, dans la pensée humaine. Lorsqu'on manque à l'éthique, qu'on manque à la morale et au respect qu'on doit à nos concitoyens et à l'être humain, non seulement on est défaillant sur le plan de la morale et sur le plan éthique, mais on est aussi défaillant sur le plan intellectuel et sur le plan de la performance scientifique. Comme quoi, tout est unifié normalement dans l'esprit humain.
Venons-en rapidement au 4e point avant de terminer cette émission. 4e point de votre ouvrage, concevoir un être déshumanisé, là où vous faites référence au clonage. Dans votre ouvrage, vous assimilez, d'ailleurs c'est un peu curieux, le clonage thérapeutique avec le clonage humain en fait.
Clonage reproductif.
Clonage reproductif, voilà. Mais le clonage thérapeutique pourrait justement servir à ne plus créer ce que vous avez aussi évoqué dans votre ouvrage, les bébés médicaments avec la double DPA, ou exploiter des cellules souches embryonnaires. Il ne serait plus question d'utiliser des solutions. Du coup,
oui, c'est comme ça que ça a été présenté d'ailleurs.
Il n'y aurait plus de problème là aussi.
Il ne devrait plus y avoir de problème puisqu'on pourrait récupérer ses propres cellules embryonnaires qui seraient compatibles puisque ce seraient des cellules qui auraient notre patrimoine génétique. Bon, c'est ce qui a été présenté dans les années 2004-2005. En fait, on se trouve quand même avec des problèmes de maîtrise du développement des cellules embryonnaires dans le cas du clonage qui restent sans solution puisque une des difficultés de la thérapie cellulaire, c'est non seulement le problème de compatibilité, mais enfin là, il serait réglé a priori puisque ce seraient nos propres cellules en quelque sorte, mais le problème de la maîtrise du développement des cellules embryonnaires qui sont pluripotentes, ça, c'est pas réglé, parce que ça fait du cancer. Ces cellules ont un tel potentiel de développement qu'on n'arrive pas à maîtriser et à orienter leur développement.
Mais justement, donc, la recherche est là pour avancer.
Oui, mais pour le moment, elle n'a pas réussi. Et c'est une des très grosses difficultés de la thérapie cellulaire. Mais passons là-dessus. C'est-à-dire que même Yann Villemut, comme je vous le citais tout à l'heure, le découvreur du clonage pour la brebis de lit, a dit mais c'est même plus utile de faire du clonage. Et Dieu sait si c'était une performance scientifique que de faire du clonage. C'est même plus utile puisque les cellules iPS rendent un service infiniment meilleur que le clonage. Je reviens sur la distinction que vous avez évoquée tout à l'heure en disant que ce n'était pas une vraie distinction. Ce sont deux techniques qui sont exactement les mêmes. Faire un clone dans la perspective de faire un bébé cloné ou faire un clone dans la perspective d'utiliser l'embryon pour faire une boîte de cellules, en quelque sorte une boîte de médicaments, c'est la même technique.
En l'occurrence, c'est cas, simplement reproduire un organe. C'est peut-être reproduire un organe qui serait lésé.
La finalité sera différente. Mais en fait, on crée quand même un embryon humain. On construirait un embryon humain. Et à partir du moment où on construit un embryon humain, on construit la vie d'un être humain embryonnaire, Et c'est pas éthique de l'utiliser uniquement comme une chose ou comme un matériau. Mais là, on est typiquement dans un débat du passé, puisqu'autant cette requête était très forte, et j'ai cité dans mon livre des personnalités, et non des moindres, qui se sont emparées du clonage et qui l'ont vraiment poussé, je pense au professeur Sureau ou au professeur Debré, par exemple, et cette requête n'existe plus, pour ne pas parler de Schwarzenberg et les autres, mais un certain nombre d'académiciens, du reste, prestigieux. C'est très curieux de voir que 5 ans plus tard, c'est terminé, ils n'en parlent plus. Alors, ça montre qu'il faut quand même être calme par rapport à ces découvertes, pas par rapport à ces découvertes, mais par rapport à la transgression qu'elles représentent. Quelquefois, le vertige de la transgression nous attire, comme le vide peut nous attirer. Et ça, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Mais sur l'avancée de la science, je n'ai aucune crainte, dès lors, encore une fois, qu'elle respecte l'être humain dans toutes ses composantes, du début jusqu'à la fin de sa vie. Je n'ai aucune crainte à l'égard des avancées scientifiques. J'ai des craintes par rapport au clonage, parce que c'est une avancée qui ne mérite pas d'être soutenue, dans la mesure où elle commence par mépriser l'être humain dans sa phase la plus fragile.
Donc, on a bien compris. On a bien compris que effectivement la science avance et que certains débats qui se posaient, que certaines questions qui se posaient il y a encore quelques temps ne se posent plus maintenant. Maintenant, quelles sont vos propositions? Justement, si on revient un petit peu en arrière au début de notre émission, vous parliez de la trisomie 21 et du diagnostic qu'on pouvait faire avant la naissance. Quelles sont vos propositions alors pour éviter cet eugénisme dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage et aussi dans l'ouvrage précédent?
Je pense qu'il y avait une piste qui avait été suggérée par le Conseil d'État déjà, c'était de supprimer le double DPI, le bébé médicament qui n'est pas justifié, qui n'a jamais été utilisé et au fond dont on peut se passer très bien puisqu'il avait été utilisé pour une pathologie, la maladie de Fanconi, qui est traitable par ailleurs avec des cellules sans de cordon. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on fait ces doubles transgressions. Même le Conseil d'État considère qu'on peut revenir là-dessus.
Et parce que la science a avancé et la raison pour laquelle...
Mais même à l'époque où on a autorisé le double DPI, on traitait déjà les maladies de Fanconi différemment. Donc il y a eu un lobbying de transgression qui plaît à certaines élites germanopratines, mais en fait, c'est totalement inutile. Bon, première chose. Deuxième exemple, on peut revenir sur la proposition, et j'espère qu'elle ne sera pas soutenue, je crains qu'elle le soit, mais j'espère qu'elle ne le sera pas in fine, celle de la, qui est évoquée par le CCNE dans son avis numéro 107, qui consiste à systématiquement, dans chaque des pays, rajouter à la liste, en quelque sorte, enfin rajouter à la recherche qu'on fait d'une pathologie, rajouter à la trisomie 21. C'est absolument pas justifié et on présume de la décision des parents en disant de toute manière ils ne le garderont pas, donc autant voir ça plus tôt. Je trouve ça totalement immoral. Bon, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, même quelqu'un comme Testard qui, sur le plan des idées et des convictions, est très éloigné de moi, nous partageons sur ce plan exactement le même point de vue. Et puis, troisième étape, non des moindres, ce serait de considérer que le dépistage généralisé de cette seule pathologie, la trisomie 21, dans cette seule finalité qu'est l'avortement, il faut absolument revenir là-dessus. C'est insupportable d'avoir comme seule politique de prévention et de dépistage généralisé aujourd'hui la trisomie 21 avec ses tristes issues. Il faut arrêter de faire ça de manière systématique. Le diagnostic d'une pathologie, si vous faites le diagnostic d'une pathologie in utero de votre enfant qui présente une cardiopathie, par exemple, ça peut arriver, ça se voit, c'est très bien, c'est génial, c'est formidable. On va s'interroger sur la nature de cette cardiopathie. On va s'apercevoir que peut-être l'enfant est trisomique 21. Souvent, c'est une affection dont souffrent les enfants trisomiques. On opère après la naissance et on rétablit tout ça dans l'ordre. Ça, c'est génial. On saura de ce fait que l'enfant porteur de la trisomie, mais on va faire un diagnostic qui va servir à améliorer son existence et celle de sa famille. Voilà. Mais ce systématisme, à mon avis, il faut revenir. Il y a une très bonne façon de revenir là-dessus. Ce serait de considérer qu'il serait juste, au fond, à partir du moment où on donne 1 € au dépistage, de donner 1 € à la recherche et à la prise en charge de cette pathologie dans une perspective thérapeutique et fraternelle.
Le message est lancé. Merci Jean-Marie Le Ménier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nasciturie te salutant, la crise de la bioéthique, publié aux éditions Salvator en 2009. Merci, on vous emportait par votre sujet, par la Fondation Jérôme Lejeune. Alors j'imagine qu'on vous entendra de nouveau prochainement dans cette réforme de la loi de la bioéthique. Merci et à bientôt. Au revoir.
Merci à vous.